Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Ses parents que l'on ne saurait voir, une série en 4 épisodes signée Agathe Hernier.
J'ai perdu la vue, j'avais 22 ans. Donc moi, je suis pas née non-voyante. Par contre, j'ai développé un diabète à l'âge de 6 ans, type 1, diabète de l'enfant. Et pour faire court, j'ai eu une des plus grandes complications du diabète, c'est-à-dire ça a touché les yeux, quoi. Et j'ai eu ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique proliférante sévère. On comprend rien qu'au mot que c'était méchant. Et en un an, j'ai perdu la vue.
Il y a plein de gens qui m'ont marqué dans la vie. Celle que vous venez d'entendre, elle en fait partie. Elle s'appelle Marion, elle est non-voyante, maman d'une petite Louise et vit à Vincennes. En fait, c'est plutôt son histoire qui m'a marquée. Mes cousines me la racontent depuis toute petite. C'est la sœur de leur père. Non pas ma tante à moi, mais à elle. Enfin, peu importe. Marion, je ne l'avais jamais encore rencontrée. On s'était appelé une fois pour qu'elle me raconte son parcours de mère non-voyante et sa thèse sur le sujet, pour un exercice dans le cadre de mes études.
Allô Marion ? Oui, je te dérange pas ?
En raccrochant, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un jour en faire quelque chose, aller plus loin sur le sujet. Le parcours de Marion, c'est le point de départ de ce podcast. Je m'appelle Agathe Hernier, et vous écoutez Ces parents que l'on ne saurait voir. On parle assez rarement des parcours de parents en situation de handicap. Regardez. Il suffit de taper sur Internet « parents en situation de handicap ». On tombe rapidement sur des témoignages de parents dont les enfants sont handicapés, mais pas de parents eux-mêmes en situation de handicap. Un peu comme si ces enfants ne grandissaient jamais et ne devenaient jamais adultes à leur tour. Pourtant, qu'ils aient un handicap moteur, sensoriel ou une déficience intellectuelle, beaucoup deviennent parents. Non sans mal, peut-être. Ils sont confrontés à leurs propres doutes, doivent braver les normes sociales, particulièrement les femmes dont la charge éducative et mentale est plus lourde, affronter les préjugés de l'entourage et des professionnels, faire preuve d'imagination pour trouver des astuces. Mais surtout, ils doivent persister devant les nombreuses portes, souvent closes. Tous ont un point commun, faire face au validisme, et à une société qui a pendant longtemps ignoré ce désir de faire famille. Mais tous ont refusé de croire ce soupçon d'incompétence qui pesait sur eux, et ont fini par inventer leur propre solution.
Pourquoi elle est devenue mère alors que, si tu veux, dans la société, faudrait pas.
On s'est débrouillé de A à Z.
En plus de la galère d'être parent non-voyant, il faut en plus faire attention à l'image qu'on renvoie.
Des représentations sociales négatives, infantilisantes et incapacitaires.
Et ça, moi, oui, ça me pèse, oui.
Épisode 1, les préjugés. À 23 ans, Karine tombe dans des escaliers en colimaçon. Elle perd l'usage d'une de ses jambes et ne peut maintenant se déplacer qu'en fauteuil roulant. Son fiancé, avec qui elle tentait de faire un enfant depuis 3 ans, la quitte. Pendant 8 ans, elle tente de fonder une famille avec quelqu'un d'autre, sans succès. Jusqu'au jour où elle rencontre Jackie.
La première chose que je lui ai dit quand on s'est vus, je lui ai dit « Écoute, lui avait déjà des enfants. » Et je dis « Moi, il est hors de question que je passe ma vie sans enfant. »
Elle tombe enceinte. Et la grossesse se déroule sans accroc. Mais le plus dur les attend.
Après l'accouchement, là, ça a été plus compliqué pour moi.
Karine, quand elle a accouché à Langon, c'était comme si c'était un truc qu'ils n'avaient jamais vécu. Donc, l'impression qu'ils n'avaient jamais accouché une femme en dit. Hein. Enfin, c'est clair, parce que comment c'était. Bon, ils ont pris énormément de soins. Et après, le reste, mon ressenti, c'est qu'on livrait soi-même. Hein. Ça, c'est clair, net, précis. On s'est débrouillé de A à Z.
Pour Karine, hors de question de ne pas vivre sa maternité comme tout le monde. Mais pour ça, il faut adapter chaque aspect de sa vie quotidienne au fauteuil roulant. Elle me raconte comment ils ont bricolé un lit à barreaux, équipé d'une porte verrouillable à la hauteur du fauteuil, raccourci les pieds d'une table allongée et opté pour une grande écharpe plutôt qu'un porte-bébé classique.
Chérie, j'oublie rien, je crois. Voilà, donc tu vois, on s'est vraiment débrouillé.
Comme ils ont pu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne passait pas inaperçu dans la rue.
À sa naissance, on avait pris, tu sais, les grosses poussettes qui font cosy et tout, parce que justement, il y avait des grosses roues qu'on pouvait tourner à 360 degrés et tout. Et au final, en fait, les gens, ils nous regardaient bizarrement parce que, bah oui, soit Jackie était là, donc il pouvait prendre la poussette et moi, le fauteuil tranquille. Mais si moi, j'étais toute seule avec ma fille, on me poussait parce que, bah, c'est quand même aussi, voilà. Donc on poussait, je poussais ma fille, donc ça faisait un peu un convoi exceptionnel. Mais les gens, tu sais, te regardaient comme ça, leur disaient mais pourquoi les mères, elles, enfin, comment elle a fait pour... C'est, oh, bah, de toute façon, oh là là, mais comment elle arrive à gérer la petite, son fauteuil. C'est surtout le comment elle a fait, pourquoi elle est devenue mère, alors que, entre guillemets, si tu veux, dans la société, il ne faudrait pas. Au contraire, je suis fière.
J'ai l'impression, et ça, je l'ai toujours eu, hein. Aux yeux des gens, aux yeux de je sais pas de qui fait quoi, pour moi c'est un ressenti qu'on ne voit pas en enfant. Quoi. Les Andis, c'est dans un coin, restez dans un coin à toucher vos aides, faites-nous pas chier, restez dans votre coin, et ça, tout le monde s'en fout.
Et là, il me dit que je ne peux pas faire d'enfant parce qu'il risque d'être atteint et de coûter cher à la sécurité sociale.
Le gynécologue m'a demandé comment j'avais fait pour être enceinte alors que j'étais handicapée.
Enfin, vous vous rendez quand même compte qu'un enfant, ce n'est pas une poupée de chiffon que vous allez jeter dans 6 mois parce que vous en avez marre.
Pauvre gosse.
Nous pensons que vous n'êtes pas capable d'avoir un enfant.
Les phrases que vous venez d'entendre ont bel et bien été adressées à des parents. Elles sont toutes extraites de témoignages que j'ai lus pour réaliser ce podcast. Parentalité et handicap apparaissent encore comme deux mots quasiment incompatibles, comme un paradoxe dans l'imaginaire collectif. J'en ai discuté avec Bertrand Copin. Il est éducateur spécialisé de formation, aujourd'hui directeur général de l'IRTS Hauts-de-France, l'Institut Régional du Travail Social, où il forme une nouvelle génération de travailleurs sociaux. Il s'est spécialisé dans le domaine du handicap intellectuel.
Les représentations sociales que l'on a des personnes en situation de handicap intellectuel ont été pendant longtemps des représentations sociales négatives, infantilisantes et incapacitaires. On définissait les personnes déficientes intellectuelles à partir de leurs incompétences, dans tous les domaines. Bon, aujourd'hui, les préjugés sont moins forts. D'ailleurs, la façon de nommer ces personnes n'est plus la même. On est passé, au début du 19e siècle, des imbéciles, des crétins, des idiots, à, dans les années 70, les arriérés, dans les années 80-90, les débiles mentaux, puis les handicapés. Et aujourd'hui, on parle de personnes en situation de handicap. C'est important, la façon de nommer les gens. Ça révèle les représentations sociales que l'on en a. Donc aujourd'hui, on est sur d'autres types de représentations sociales, mais les préjugés sont encore très forts. Quand vous interrogez, non pas les professionnels, mais les gens de la rue, sur les enfants nés de parents en situation de handicap, il y a une confusion. C'est-à-dire que les gens vous disent « Ah oui, les enfants handicapés ». Non, non, les enfants dont les parents sont en situation de handicap. Et là, il y a un gros point d'interrogation dans les yeux des interlocuteurs. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette parentalité reste quelque chose d'assez impensable.
Bertrand Copin a rédigé plusieurs travaux sur le sujet, à une époque où les recherches faisaient sérieusement défaut. Tout commence en 1995, lorsqu'il rencontre une équipe travaillant dans un service d'accompagnement à la vie sociale. C'est là que, pour la première fois, il entend parler de la prise en charge de cette parentalité.
Dans un premier temps, j'étais étonné. Je me disais, mais les adultes en situation de handicap ont des enfants. Et j'ai donc découvert cette situation que j'ignorais complètement, à laquelle j'avais jamais pensé. Et quand j'ai commencé à rencontrer ces parents avec une déficience intellectuelle, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie injustice à leur égard. C'est-à-dire que on les considérait d'emblée comme déficients parentaux, comme incapables d'éduquer un enfant, et j'ai trouvé cette situation extrêmement injuste.
Pour combler le manque de recherche, Bertrand Copin a enquêté sur 683 familles, où au moins l'un des parents est atteint de déficience intellectuelle. Le but de ce rapport de 300 pages, remplacer les préjugés par des données factuelles et objectives.
Et en ce sens-là, ça a réussi parce qu'on a montré que, évidemment, des parents avec une déficience intellectuelle, il y en a plein, il y a plein de situations, et que les situations allaient de parents en très grande difficulté jusqu'à des parents tout à fait compétents pour éduquer leur enfant. Et déjà, ça, c'est une première réussite. C'est-à-dire que c'est aller à l'encontre de toutes ces idées qui consistaient à associer déficience à déficience dans tous les actes, y compris la parentalité. Donc, ce rapport a montré objectivement que les situations étaient beaucoup plus contrastées, beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait.
Quand bien même ces parents rencontrent des difficultés, elles ne découlent jamais exclusivement de la déficience intellectuelle. Pour lui, d'autres facteurs d'influence méritent notre attention, comme par exemple le stress parental. C'est le sentiment qu'éprouve un parent lorsqu'il perçoit un écart entre les attentes posées sur lui en tant que parent et ce qu'il estime être capable de faire pour y répondre.
Le stress parental va avoir comme effet d'alimenter un sentiment d'incompétence parentale. Les parents vont se sentir incompétents. Et ce sentiment d'incompétence va renforcer le stress parental. Vous voyez, on est dans un cercle renforçant où le sentiment d'incompétence alimente le stress parental qui l'alimente aussi.
Un cercle vicieux qu'il faut briser pour pouvoir s'épanouir en tant que parent. Charlotte Puiseux en sait quelque chose. Charlotte Puiseux vit depuis petite avec une maladie génétique, l'amyotrophie spinale, qui entraîne une perte de force musculaire. En 2016, elle devient maman. À la surprise de beaucoup, comme s'il s'agissait d'un miracle, comme elle le dit dans son livre de chair et de fer, publié en 2022 aux éditions La Découverte. Un essai dans lequel elle livre une réflexion intime et politique sur le validisme en France. Charlotte, habitant dans la baie du Mont-Saint-Michel, on décide de s'appeler.
Allô ?
Oui ?
Vous m'entendez ?
Oui, attendez, je mets ma caméra.
Charlotte a grandi avec l'idée que la maternité n'était pas faite pour elle.
Donc moi, on m'a pas du tout élevée dans l'idée que j'aurais des enfants, ou en tout cas, c'est un sujet qu'on n'abordait pas vraiment avec moi. Je l'ai senti même de la part de mes proches, les réticences que j'ai perçues comme une peur qu'il m'arrive quelque chose. Des réticences qui, forcément, ajoutent du stress au stress. Et puis, socialement, oui, on voit bien que la société... émet des jugements très négatifs, pour le coup, là, qui n'ont pas forcément de rapport avec, en plus, des caractéristiques physiologiques. Et des fois, ça n'a même pas, enfin, ça n'a absolument rien à voir. C'est des jugements vraiment, là, pour le coup, moraux. Et que forcément, en tant que personne handicapée, on intègre, hein. Et du coup, forcément, ça a un impact sur ma confiance en moi. Je pense que ça a un impact sur la confiance de toutes les personnes handicapées. Et du coup, bah, forcément, dans le désir d'être mère aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me demande est-ce que je vais y arriver, est-ce que la société a raison, est-ce que je vais être une bonne mère.
Ici, on touche du doigt une autre pression sociale, celle d'être une bonne mère, une mère à la hauteur. Même si les normes évoluent, l'éducation est encore une affaire de femme. Les constructions sociales imposent aux mères une pression plus forte, une charge mentale plus importante, des attentes plus élevées. Logiquement, les jugements qui en découlent sont souvent plus sévères. Les mères en situation de handicap se retrouvent à l'intersection de deux oppressions, le sexisme et le validisme. En quelque sorte, c'est la double peine.
T'as le gentil papa et la maman qui fait un peu de la merde, tu vois.
On retrouve Karine.
Et ça, moi, oui, ça me pèse, oui. Parce que je suis la maman de Naïs aussi, tu vois. Tout le temps, il y a le papa de Naïs. Ouais, mais bonjour. Moi aussi, je suis là. Je m'appelle Karine, je suis la maman, tu vois. De suite, c'est lui qu'on va voir. Alors que je suis là, hein, j'existe, je suis en fauteuil, ok, mais je peux vous répondre, j'ai encore toute ma tête, quoi. T'as l'impression qu'avec le handicap, on te diminue. Eh ben non, je suis désolée.
Ce que j'ai pu expérimenter, c'était quelque part...
Devant moi, Marion, aussi sociologue du handicap.
Mon conjoint à l'époque, il gère quand même. Enfin, le sous-entendu, c'était chapeau... D'avoir non seulement une femme non-voyante et un enfant, enfin, c'est ça que ça me renvoyait, c'est qu'il devait certainement tout faire, quoi. C'est plus des remarques comme ça. Ah, et donc ton conjoint, il va faire les. C'est papa qui va faire les biberons, ou. Il ressortait un peu vainqueur de la situation, quoi, si je peux dire. Enfin, vainqueur. C'est un peu le bon samaritain de la situation. Et ça, je le vois dans ma thèse. Un père non-voyant qui est en couple avec une mère voyante, c'est chouette. S'il emmène son enfant à la crèche ou à l'école, c'est un super papa et tout, malgré son handicap, il est là et tout. Alors que une mère non-voyante et avec un homme voyant, l'implicite, c'est son mari il doit bien gérer, ça doit être très paritaire, voire même plus que paritaire, il doit faire plus. Et dans certains cas, même la mère, elle doit être un peu à la ramasse, ça ne doit pas être évident. C'est presque plus inquiétant. Je ne dis pas qu'on est forcément mis en doute, on n'est pas non plus rejeté à chaque fois, mais il y a des petites phrases, des petites mises en doute, des petites suspicions. Alors qu'il y a un potentiel sympathique au père non-voyant. La maternité, effectivement, dans notre société, la charge symbolique, elle n'est pas la même. C'est l'apanage des femmes et des mères, en fait.
Stéphanie préfère ne pas nommer son handicap, parce que le diagnostic précis reste flou en raison d'un désaccord entre médecins. Elle souffre de douleurs chroniques, de problèmes articulaires et musculaires, d'acouphènes douloureux et d'une sensibilité sensorielle élevée. Psychologiquement, elle fait face à des troubles anxio-dépressifs, en partie liés à ses douleurs. Stéphanie souhaite devenir mère. Avant même d'avoir un enfant, elle porte déjà en elle toutes les craintes que Karine, Marion et Charlotte ont évoquées. Celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de bien s'en occuper, ou encore de transmettre la maladie. Stéphanie, ce n'est pas tant le regard des autres qui l'inquiète, mais les répercussions directes qui peuvent en découler.
Qu'on me regarde mal dans la rue, je m'en fous. Par contre, qu'on me regarde mal et qu'on me dénonce, j'en sais rien, à la protection de l'enfance et qu'on me dise « Tiens, elle n'est pas capable de s'occuper de son gamin, on va lui retirer. » Bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais on finit par extrapoler des choses et dans ces angoisses, on peut se faire des films et se poser des questions.
Cette peur la freine, surtout quand il s'agit de demander de l'aide.
On tombe souvent sur des personnes qui ne sont pas formées et qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui juste ne savent pas. Et dans la vie, de manière générale, j'ai tendance à dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que très souvent, on a un paradoxe et une antinomie entre ce que les gens pensent faire pour ce qu'ils pensent nous aider et en fait, le geste qu'ils font nous aide pas ou pire, nous met en danger. Je sais qu'il existe d'autres structures qui permettent l'accompagnement, mais je trouve que l'information n'est pas très facile d'accès et c'est pas évident de savoir vers qui se tourner et qui peut nous accompagner sans être jugeant, sans avoir la crainte derrière de se griller, entre guillemets. C'est-à-dire que est-ce que si je vais voir la PMI pour avoir des conseils et de l'aide, ils vont se dire « celle-là, on va la garder à l'œil parce que quand elle aura son gosse, ça se trouve, elle va mal le traiter ». C'est toujours cet équilibre entre « on a besoin d'aide, mais si on demande de l'aide, c'est avouer une faiblesse. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont se glisser dans cette faiblesse pour après retourner la situation contre nous ?»
Et cette peur a ses raisons. On retrouve Marion dans son appartement à Vincennes. Elle a accepté de nous raconter une histoire qui a bien failli lui porter préjudice.
J'accompagnais ma fille à la crèche, un bébé de 2 ans. Donc moi, j'avais ma canne blanche à l'époque, donc je lui tenais très très fort la main. J'étais hyper stressée pour un trajet, mais de 5 minutes, quoi. Vraiment un trajet tout bidon, hein, mais voilà, c'est l'aventure au coin de la rue. Hein. J'ai vu que ça se passait bien, qu'elle n'a jamais essayé de me lâcher la main, qu'elle chantait. Donc du coup, je me suis un peu détendue et je me suis vue, au bout d'un certain temps, commencer non pas à lui lâcher la main en plein milieu de la route, évidemment, parce que j'ai quand même un sens critique, mais à lui lâcher la main, arriver, aller à 15 pas, je sais pas, 20 pas quoi, de la crèche. Donc ça donne la petite qui avance et qui, quand elle arrive à la crèche, elle dit « c'est là maman, c'est là ». Puis je lui reprends la main, elle me donnait la main, et en fait ça marchait bien, et on retraversait cette grosse rue, et puis arrivé devant chez moi, enfin pareil, à 20 pas, elle m'attendait devant la porte. J'étais plutôt... alors moi j'étais sur mon petit nuage, je me disais « ah c'est bien, elle devient autonome, je ne la stresse pas dans la rue, on se fait confiance », enfin j'étais dans un... Je maintiens en fait la démarche. Sauf que j'ai été vue par une professionnelle de la crèche, donc une psychologue, j'ai été vue... Donc, qu'est-ce qu'elle a vu, cette dame? Elle a vu une mère en canne blanche, un enfant lâché en liberté sur le trottoir. Et juste après la grille de la crèche, il y avait une sortie de parking. Et moi, je ne savais pas. Donc, elle a vu une scène de crime. Elle s'est dit, enfant en danger, etc. Donc, j'ai été convoquée. très suspectée. D'un coup, là, les produits ménagers, la casserole. J'ai subi un interrogatoire. Bon, pas de souci, hein, je réponds. Et j'ai donc reconnu que c'était dangereux. Aujourd'hui, je ne la lâcherai pas. Je savais pas qu'il y avait une sortie de parking. Mais dites-le-moi. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, j'étais de très bonne foi. Je recommencerai pas et tout. C'est vrai, vous avez raison. Merci de me le dire, en fait. Mais trop tard, en fait. En plus, ils m'ont même pas dit. Ils m'ont dit, on va faire un courrier. Bon, j'ai jamais su vraiment ce que c'était. Et c'était une information préoccupante. C'est-à-dire que c'est le premier pas des services sociaux. Les services sociaux, quoi, à l'enfance. Bon, j'ai pas eu de suite. Mais je me suis dit, ah, OK. C'est, en plus de la galère d'être parent non-voyant, il faut en plus faire attention à l'image qu'on renvoie. Voilà. Un bon accompagnement pour un parent non-voyant, ça aurait été de la mettre en vigilance, non pas de l'accuser. Enfin, bref, du coup, ça me fâche quand je raconte cette histoire.
Malheureusement, l'histoire de Marion n'est pas un cas isolé. Et de nombreuses histoires n'ont pas une issue aussi positive. Dans l'enquête de Bertrand Coppin, on apprend que le taux de placement des enfants issus de familles avec au moins un parent ayant une déficience intellectuelle est bien plus élevé que celui des familles dites ordinaires. 33% contre moins de 1%. Une partie de ces placements sont indiscutables, mais une question me brûle les lèvres. Certains d'entre eux auraient-ils pu être évités si on avait rassuré ses parents, si on leur avait offert un accompagnement plus solide et si on avait doté les professionnels de clés de compréhension et de formation adaptées? À cet instant, je comprends qu'on est face à bien plus qu'une question de préjugés, mais d'une remise en question de l'ensemble du système d'accompagnement à la parentalité. Heureusement, cette prise de conscience ne date pas d'hier. Depuis, des professionnels se sont mobilisés pour mettre en place des services spécialement conçus pour épauler ces parents et répondre à leurs besoins.
Vous venez d'écouter le premier épisode de « Ces parents que l'on ne saurait voir », une série signée Agathe Hernier pour Podcastine. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.